Alleluia. Mes amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître, alléluia. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait aux foules : le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Le royaume est encore comparable à un négociant de perles fines qui trouve une perle de grande valeur. Aussitôt, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Que ton évangile, Seigneur, s'inscrive dans nos âmes. Qu'il nous lave de toutes nos fautes. Ah, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Les psaumes d'un bout à l'autre respirent les sentiments d'amour divin. Ils exhalent la patience, l'humilité, d'oubli des injures, de douceur. Il respire la force de l'âme et de confiance en Dieu. C'est pourquoi quiconque prie le Fils divin et les psaumes doit s'appliquer à lui-même les sentiments et les actes d'une sainte crainte de Dieu. D'une pénétrante confiance en Dieu, d'une gratitude, d'action de grâce, et de s'appliquer à lui-même tous les bons désirs qui y sont contenus, d'humilité, d'offrande, d'amour et de louange que David produisait. Et surtout, et les prières qu'il faisait pour demander à Dieu le pardon la lumière et le secours. C'est que le Seigneur avait destiné les psaumes à être récités dans toute l'Église jusqu'à la fin. Et le Seigneur a certainement eu pour désir que chacun de ceux qui les réciteraient s'applique à lui-même ses actes et ses prières et toutes ses intériorités révélées en David et que David faisait pour lui-même et les demandes que David faisait pour le peuple de Dieu tout entier. Chacun doit se proposer de les faire pour tous les chrétiens. De même aussi, quand David parlait de ses ennemis, on applique ordinairement, selon le sens littéral, ce qu'il disait aux ennemis qu'il persécuterait, ou qu'ils persécutaient. Nous, nous devons l'appliquer aux démons qui sont nos plus cruels ennemis et qui cherchent à nous ôter la vie spirituelle, la vie de l'âme. Plutôt que des ennemis humains qui nuisent à notre intégrité temporelle. Ça fait penser à Sainte Gertrude, qui récitait, c'était pas une récitation, c'était vraiment pas bien de dire réciter les psaumes. Chantait les psaumes en communauté comme ça, à 30, 40, 100, ça dépendait. Hein. Et elle voyait, Seigneur, elle voyait parmi les consacrés, quoi, elle avait donné leur vie à Dieu. Quoi. Et il chantait à la place du monde entier, c'était la bouche de la prière du monde. Elle dit que sur l'ensemble, il y en avait peut-être deux ou trois seulement qui chantaient les psaumes. Enfin, tout le monde chantait les psaumes. Mais il y en avait deux ou trois qui étaient habités. C'était l'Esprit Saint et qui intérieurement et qui se faisaient exhaler de leur bouche, qui était dans leur dans l'intime sainteté de leur âme et de leur cœur. Ben, les psaumes, ils ont été écrits, comme le dit Saint Alphonse de Ligorie. Ils ont été inspirés à David pour être dit à la fin du monde. Ils étaient inspirés pour que la petite Marie, Vierge Marie les chante cette fois par jour dans le temple. Elle avait l'âge de 3, 4, 5 ans, jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle a continué à le faire parce qu'elle n'avait pas besoin d'apprendre par cœur. Un psaume dit une fois, c'était dit de manière avec un cœur tellement puissant, puissamment inscrit à l'intérieur de la mémoire de Dieu. Elle les faisait tourner dans son cœur continuellement. Les paroles des psaumes, elles ont été inspirées pour Jésus. pour que Jésus puisse les chanter. Pour que Jésus venant visiter toutes les âmes humaines, toutes les âmes. Puisse les chanter. Jésus a vécu les psaumes. En fait, la prière de Jésus n'est pas un vrai mystère pour nous, puisque les prières qui sont révélées, descendues d'en haut, ont été faites pour le Messie. Ils ont été faits pour la Vierge d'Israël, pour le peuple de Dieu, pour le corps mystique entier de Jésus. Alors, et aussi bien que c'est vrai que c'est assez. Extraordinaire de chanter les psaumes lorsque, à un moment donné, ça y est, c'est Jésus à l'intérieur de nous qui les chante, et que ça, on n'en a pas seulement conscience, mais on en perçoit la portée immense, immense, immense. Il y a quelqu'un, les mots sont ajustés à chaque mouvement intérieur de Jésus lorsqu'il chante les psaumes. Ou Saint Joseph, il faut bien reconnaître quelquefois, il y a des psaumes qui ont été faits. Ces psaumes, ils ont été faits pour la Sainte Famille, de toute façon. C'est l'Église des psaumes, la Sainte Famille. C'est une prière de communion. On est complètement investi à l'intérieur de ceux avec qui on prie. Ceux avec qui on prie sont complètement investis à l'intérieur de notre prière. Bien que, sinon les psaumes, si c'est pas pour Jésus, Marie, Joseph, ils sont. C'est plus des. Il reste plus qu'à les réciter, puis c'est tout. Réciter des psaumes, c'est pas bien. Ou lire des psaumes, c'est pas bien. Les psaumes sont faits pour qu'il n'y ait plus de distance entre Dieu et le Christ et le Messie et la nature humaine du Messie. Et la nature humaine assumée. Il n'y a plus aucune distance entre lui et nous, entre Dieu et nous. Toutes les relations sont rétablies entre Dieu et nous. Quand Jésus chante les psaumes, quand c'est lui, quoi. Quand c'est lui qui redit les psaumes à travers nous, à travers la prière de l'Église. Ça doit être important, en fait. Ça doit être important. Certainement, parce que l'Église a décrété, quoi, si on était consacré, si on était prêtre, si on était consacré religieux, moniale, religieuse, le fait de ne pas se livrer totalement et donner l'autorisation à Jésus dans le corps mystique de l'Église sur la terre, de redire à travers notre bouche lui-même les psaumes, pour lui-même, faisait une. Était dans la matière grave. Ne pas dire un office, par exemple, pour un prêtre, c'est une matière grave. C'est comme si pratiquer, je sais pas, non. C'était au même rang que une matière grave, un péché mortel. S'il le faisait volontairement. Et à chaque fois, les prêtres, je dis ça, vous le savez, ils se réunissent autour de l'évêque et la seule chose qu'ils promettent, solennellement devant le peuple et à très haute voix, c'est qu'ils diront les psaumes et l'office des psaumes pour que le Christ sur la terre puisse avoir une voix dans son corps mystique auprès du Père. C'est pratiquement la seule chose qu'ils promettent pour renouveler leurs vœux, pour renouveler leur sacerdoce, pour renouveler leur vie. C'est donc que ça doit avoir une importance. Et l'important, c'est que notre cœur soit complètement laisse la place à Jésus, à son cœur embrasé de redire les psaumes continuellement. Lui, dans le silence eucharistique, mais il a besoin que les bouches fassent entendre son embrasement du cœur dans les psaumes, dans la louange de Dieu, parce que la louange de Dieu, c'est l'expression même de l'obéissance. D'ailleurs, vous savez, on voit bien quand on dit, quand on vénère les anges de la face de Dieu, il y a le fameux Yahoudiel, comme on a dans l'Apocalypse, Yahoudiel, louange de Dieu, louange séraphique de Dieu, pour que nous puissions être dans l'obéissance à l'éternelle volonté du Père, qu'on apprenne qu'on soit de la même race, de la même dynastie, de la même royauté, de la même divinité que Jésus. Parce qu'il chante le Hallel. La louange, c'est si elle est vécue dans le cœur de Jésus, il rend grâce d'être le Dieu vivant, accomplissant la volonté de l'être éternel et vivant de l'amour éternel de Dieu. Il rend grâce. Il est dans l'obéissance de la sagesse de la croix et il en rend grâce. Et comme il le fait, comme il accomplit avec un cœur brûlant de gratitude la volonté du Père dans la sagesse de la croix, eh bien, il en fait sourdre un embrasement de gratitude. C'est son offrande dans la louange. Et c'est ça qu'il transmet dans son dernier souffle, dans l'Esprit Saint. Alors on peut dire les psaumes, bien sûr, sans qu'il n'y ait aucun souffle du Saint-Esprit dans la poitrine. Mais ce n'est pas le but des psaumes. La prière, c'est qu'il n'y ait plus aucune distance entre Dieu et nous, entre Saint-Joseph, Marie, entre la grâce agréée et dans la grâce créée et nous. Toutes les relations sont rétablies. Le péché, esprit du monde, on est quand même loin de la sainteté absolument parfaite et éternelle agréée de Dieu. Mais dès qu'on est dans la prière, dès qu'on est dans le cœur de Jésus, le cœur immaculé de Marie, dès que c'est le cœur immaculé de Marie, dès que c'est le cœur parfait de Joseph, dès que c'est l'unique âme qui embrasse notre cœur et à qui on prête nos lèvres, mais aussi le tremendum et fascinandum de notre âme tout entière embrasée, et bien c'est sûr que là, on fait l'œuvre de Dieu, et c'est ça, Opus Dei. On fait l'œuvre de Dieu. C'est là que Dieu travaille à travers nous. Il ne peut travailler à travers nous que quand il n'y a plus aucune distance entre lui et nous. Et ça, c'est à travers la prière révélée. Opus Dei. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu, c'est le travail de Dieu. Que sur la terre, il y a une transformation que Dieu opère à travers la prière de l'Église, la prière de Jésus. C'est comme ça que le souffle de la croix glorieuse, silencieuse, de l'âme de Jésus glorifié, fait entendre sa voix dans la carrière du peuple de Dieu en prière ensemble. Toutes les relations sont rétablies entre Dieu et nous dès qu'on est dans les prières de l'Église, dans le c'est-à-dire dans l'intériorité. Lorsqu'on s'engloutit, lorsque on fait rebondir du fond de cette intériorité, l'abolition des distances dans la gratitude d'une prière dans laquelle on s'écoule. Mais d'une manière la plus mystique possible, Saint Alphonse de Ligorie, c'est sûr, la messe, les psaumes, bah, c'est l'exemple, c'est le prototype, quoi. Il n'y en a qu'un comme lui, hein, c'est vrai. Tous embrassés à l'intérieur de la poitrine, tout le temps. Il n'y a aucune distance. Hein. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Ils ont été écrits pour Jésus, pour que Jésus puisse les dire. Ils ont été écrits pour l'Immaculée. Ils ont été écrits pour l'union hypostatique de Jésus. Ils ont été écrits pour la prière eucharistique de l'hostie silencieuse. Ils ont été écrits pour le roi. Qui est la parole de louange exprimé dans l'Église de Jésus qui ne finit pas, qui a obéi et qui a disparu dans le silence d'une obéissance immortelle. Il a connu l'obéissance par le silence de sa passion, son union hypostatique des yeux. Il s'est englouti, hein. Il demeure jusqu'à la fin du monde. C'est les anges qui parlent à sa place, plus lui. Hein. Et au fond, c'est vrai que c'est... si on est un petit peu loin, ben... on dit les psaumes, mais il faut les dire tranquillement, profondément, continuellement, comme un ruisseau qui ne cesse. On voit pas un ruisseau qui s'arrête d'un seul coup, toc, pouf, on arrête. Puis 15 secondes après, on reprend le ruisseau. Non, c'est continuel. Le psaume, c'est Jésus qui continuellement. Pas jusqu'à la fin du monde comme ça, pour rejaillir en source de jaillissante à l'intérieur de Dieu le Père, il n'y a pas de distance entre le ruisseau qui coule et la source de jaillissante dans l'éternité agréée de Dieu. Et à force de dire les psaumes comme ça, de manière continuelle, tranquille, précise, claire, enfantine, jaillissante, eh ben, la distance disparaît et les relations sont rétablies entre la nature humaine tout entière qui est en nous et la nature divine tout entière qui est en nous aussi, puisque nous sommes les engendrés de Dieu, puisqu'on a communié, puisqu'on est le tabernacle du Dieu vivant dans l'union hypostatique de Jésus. Et ça, c'est la clé de la prière des psaumes, c'est ça. C'est une des meilleures manières de connaître Jésus de l'intérieur, Joseph de l'intérieur, le juste et le roi de l'intérieur, la mère de Dieu lorsqu'elle engendre. La contemplation incrée de Dieu dans le gré de l'intérieur. Alors voilà, très bien. On va avoir le mois d'août là, c'est tout le mois d'août. Bon, on n'oubliera pas que le 7 août, c'est le grand jour de la louange, de la gratitude, de la communion, mais alors totale et perdue avec la première personne de la très sainte Trinité. Pour ne presque dire le rosaire, les 20 mystères ce jour-là avec Saint Joseph. Avec Saint Joseph qui inspire, qui spire de l'intérieur la substance. Éternel a créé l'amour de la première personne de la très sainte Trinité pour que nous soyons comme. Pour que nous soyons tabernacle du Père, de la personne de notre tabernacle. Maintenant et à l'heure de notre mort, vraiment. Spirer de l'intérieur, respirateur, puis spirer comme ça, je rêve, de l'intérieur. L'amour, la lumière et la vie. Le don inconditionnel du Père dans tout ce qu'il est. Pour qu'il n'y ait aucune distance de lui à nous, de nous à lui. Quoi. Il nous crée à partir de lui-même sans aucun intermédiaire. Et nous devons faire cette prière avec les mots comme ça. Spirons, inspirateur. Être inspiré, les psaumes sont inspirés. L'inspiration d'amour éternel avant la création du monde est à l'intérieur de nous, dans la substance même de la paternité, de la première personne de la très sainte Trinité. Et ça, c'est notre monde, c'est notre champ intérieur. C'est là qu'on trouve le trésor. Si on le fait à travers les 20 mystères, c'est quand même magnifique de faire ça, de répéter ça, de répéter ça. Qu'on soit habitué par la parole, le psaume, la prière, la méditation, la contemplation, la pénétration, la transformation des mystères, à être dans le lieu où Dieu nous attend. Ah, le 7 août, oui, ça, c'est vrai. Et ben là, on a, j'allais dire, la perle. Si on fait ça, c'est qu'on a la perle, on peut laisser tout le reste, parce qu'on a la perle, c'est là où l'Immaculée. Dans la supervenue Saint-Esprit à l'intérieur d'elle, est elle-même spirée de manière passive par la troisième personne de la très sainte Trinité. Pour être assumée et investie dans la mission, dans la mission agréée dans le créé, et qui fait qu'elle est mère de Dieu dans tous les psaumes. Que Jésus va dire à travers lui, à travers ses membres, à travers elle-même. Il y a une connaissance de Marie quand même. Et c'est ça qui est dans le cœur de Marie. Après tout. On aura 30 jours pour grandir progressivement. Hein. C'est vrai, il faut combien de temps pour grandir. Chaque jour, jusqu'à la maturité, jusqu'à la maturité. Non, parce que c'est beau de savoir ça, hein. Parce que c'est que la spiritualité du cœur, tu vois. Sacré-Cœur du Saint, du cœur immaculé de Marie. Enfin, c'est beau, je trouve. C'est pas seulement... beau, c'est nécessaire. C'est le chemin d'écoulement pour nous disparaissant nécessairement. Pour rejaillir. Dans l'expression de la grâce chrétienne. C'est vrai. C'est beau, Jésus. Il dit les psaumes comme Saint Joseph, son père, pareil. Il voit ce qu'il va faire à son père, Saint Joseph, il fait pareillement. Il inspire. Puisque Saint Joseph le fait, il inspire la nature essentielle et substantielle de l'aspiration active. Il passe donc de sa aspiration active, qui est personnelle, à l'aspiration active, qui est hypostatiquement et substantiellement celle qui projette la nature humaine et divine et créée du Père. Il passe de l'un à l'autre, et c'est ça, sa manière de débattement du cœur de Jésus. Et ça, c'est engendré par Marie. C'est ça, le cœur de Marie, qui reçoit passivement ces torrents d'éternité, d'amour. C'est pour ça que elle en est l'expression dans la nature agréée d'inspiration du Saint-Esprit. Elle est l'expression reçue et jaillissant en vie éternelle. C'est pour ça qu'elle devient la mère de Dieu. Et à travers nous, eh bien, nous sommes le frère, nous sommes le père, nous sommes la sœur, nous sommes sa mère. Il n'y a plus de distance dans le ciel et dans la terre. Il n'y a plus de distance dans le règne, dans le moi du Sacré-Cœur, dans le moi du cœur de Marie, dans le moi de la vie. C'est ça. Tourner comme ça les trois, c'est ça, le règne et la victoire du cœur de Marie. Alors à ce moment-là, c'est sûr, hein, il y a le supervenu du Saint-Esprit de l'intérieur de l'Église, il y a le supervenu du Saint-Esprit de l'intérieur du corps eucharistique de l'Église, de la Jérusalem nouvelle. C'est normal, il y a le supervenu à l'intérieur. La présence réelle accomplie, embrasée, de la fin d'un corps spirituel qui en déborde, en émane. Il y a le supervenu du Saint-Esprit dans la Jérusalem eucharistique, des noces de l'agneau. Et du coup, il y a une saisie substantielle, une assomption, un mariage. Et un autre là, l'unité de tout, dans l'indivisibilité. Et tout ce qui n'est pas de ça, bah, échappe, tombe par terre en poussière, et il ne reste plus rien, tombe dans le vide. C'est pour ça, dans le moi de Marie, du cœur immaculé de Marie, les rugissements du mauvais, les bruits des radios et des films ont disparu. Nous nous consacrons à cette abolition de toute distance d'amour dans le cœur de Marie. C'est elle qui fait l'unité de tout. et pourront y disparaître, s'y engloutir merveilleusement, délicieusement, et faire jaillir les sources de la vie éternelle mariale, immaculée, maternelle, royale, dans les poussées. Alors, on passe continuellement dans ce spectacle merveilleux où c'est l'Esprit Saint qui est l'acte de tout ce que nous faisons. Dans l'indivisibilité de la prière, s'il y a une sainte Gertrude dans une église, une cathédrale, un oratoire, etc., où on est en train de prier en commun à une messe, à une paroisse, etc., il ne faut pas que s'il y a une sainte Gertrude, elle voit qu'on soit en dehors de ça. Ça le voyait, hein, telle sœur, elle n'a pas du tout le temps. Il y en a juste deux, une et deux. Il ne faut pas. Quand une sainte Gertrude sera là, à côté de nous, elle voit qu'on est complètement en dehors. Même si on fait tout ce qu'on peut, et bien ce n'est pas en faisant tout ce qu'on peut. C'est là qu'on voit qu'il y a une transformation. Il y a une liberté à laisser Dieu prendre toute la place. Et la royauté. La Jérusalem nouvelle s'épanouit librement. Ce n'est pas moi qui prie vers Dieu, c'est Dieu qui prie. C'est la vie divine qui s'exprime dans notre âme transsubstantiée, toute préoccupée d'actuer sans cesse l'acte pur de l'amour du Saint-Esprit, l'amour dans l'Esprit Saint, l'inspiration agréée du Saint-Esprit. Honneur, louange, gloire, gratitude, ma grâce.